Mwen viole li asasinel, kwa mwen ta fle pou ta ele. Bagen ti moun nan lani, ak yon kwa salap si e machin. Yo san fami, yo san abri, kwa mwen ta fle pou ta rejoui.
Revolution.
The funk.
Revolution.
The funk.
The CKUT 90.3 FM in Montreal.
For your mind and for your hips, this is music and sounds from the mothership. The mothership cassette archives. 25 years of funky revolutions.
For your mind and for your hips. This is music from the Mothership. The Mothership Cassette Archives, celebrating 25 years of funky revolutions. On today's program, we look at the lens of Creolité through two features and interviews we did in 2014. In the first part of the program, we have Ernesto Dabo from Guinea-Bissau, residing in Montreal, released an album called Lambrasa in 2013. We had the privilege of interviewing him on the program in June of 2014 before his performance at Nuit d'Afrique. From Guinea-Bissau, we will then move towards the Indian Ocean, specifically the island of Réunion, and an album released in 1981 by one of the fundamental groups of modern Maloya on that island, and Creole Revendication, Celebration, and Political Activism. We look at the album Bateau Fou from Ziz Kakan. On CKUT 90.3 FM, the Mothership Cassette Archives.
La pire des choses, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, c'est le silence des gens bien. Vous, qu'est-ce que vous faites?
On ne donne pas la parole à quelqu'un. Quelqu'un arrache la parole. C'est pour vous dire ceci. Si vous allez dormir dans votre case là, et vous croyez qu'il y a quelqu'un qui va se lever parce que vous êtes fatigué, ouvrir sa tête à lui pour que vous quittiez de votre fatigue et jouer des bruits là, vous avez menti. Il n'y aura personne. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe parce qu'on regarde l'autre. On se dit, il faut que les autres là fassent quelque chose. Les autres, c'est qui? C'est l'histoire des souris qui se rassemblent pour lutter contre le chat. Et la plus intelligente des souris a dit, moi j'ai trouvé, on va lui mettre une clochette au cou et chaque fois qu'il s'approche, ça sonne et on fuit. Tout le monde applaudit, on arrange la clochette, on ne trouve personne pour aller mettre.
On ne libère pas un homme. Un homme se libère. Un esclavagiste ne devient pas libertin du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que la France peut dire « Allez-y, vous êtes libre ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que la France veut notre bien. Ce n'est pas vrai. Et elle a raison parce que notre situation actuelle profite à ses intérêts. C'est humain. Notre bonheur ne peut pas venir de ceux qui ont profité de notre esclavage, de ceux qui ont profité de notre état de dépendance. Ce n'est pas vrai. Et c'est pourquoi j'ai écrit, chaque fois que la France dit quelqu'un est bien, cette personne est bien pour la France. Mais c'est clair là, c'est humain. Si vous défendez les intérêts de la France couronne. Maintenant, est-ce que vous défendez vos propres intérêts à vous? Ça, c'est autre chose. Est-ce que vous défendez les intérêts de votre peuple? Ça, c'est autre chose. Dès que vous défendez les intérêts de la France, elle est en droit de faire de vous académicien, pape, machin, tout ça. C'est son droit. Il faut pas se leurrer. Il faut être clair. On dit en politique, les amitiés, les relations, les plus bonnes se perdent dans l'intérêt comme le feu se jette dans la mer. C'est comme ça en politique. C'est une question d'intérêt.
c'est pas une question d'amitié, on n'aime personne. Nous sommes tous noirs, tu as beau te maquiller, devenir cuisin, c'est pas ça, ça ne change rien aux yeux des Français. Tu es un noir, tu es un colonisé, c'est tout. Et si tu défends leurs intérêts, ils te supportent moins. C'est pas plus compliqué là. Aujourd'hui, elle est là pour dire la francophonie, la maçonnerie, la machinerie. C'est des histoires, c'est une question d'intérêt. Personne ne nous donnera la liberté, personne ne nous donnera l'indépendance. Le voleur qui vous vole a raison. C'est vous qui avez tort de vous laisser voler. C'est moi. La pire des choses, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, c'est le silence des gens bien. Vous, qu'est-ce que vous faites?
Awadi, également une figure bien connue à Montréal, sera aussi participant à la 28e édition du Festival Nuit d'Afrique et en spectacle le 18 juillet à Awadi. Sur les ondes du peuple 90,3 MF, with myself, Khalid, pleasure to be with you this afternoon. And we continue, as promised, our first show on the artists of Nuit d'Afrique. Our forthcoming guest is a gentleman that we got to know only musically, briefly, in the fall, with the release of a very beautiful, sweet album. Lyrical in the sense of the sound of the gentleness on occasion, an album released in 2013 by called L'Embrassa, and so I'd like to welcome Bienvenue sur les ondes Ernesto Dabo.
Merci.
Vous êtes en fait, je suis très honoré de vous avoir, ce que j'appellerais une des grandes figures de la musique en provenance de Guinée-Bissau, et je vous remercie de vous avoir déplacé. Votre spectacle, au moins dans le cadre du festival Nuit d'Afrique, se tiendra dimanche le 13 juillet au club Balato à partir de 20h30. L'album que j'ai découvert à la fin de l'année dernière, L'Embrassa, elle peut se traduire par mémoire, n'est-ce pas?
Mémoire, ouais. Souvenir.
Pour vous, c'était quoi ces souvenirs? Parce qu'en fait, c'est l'apogée d'une longue carrière musicale que cet album, d'une certaine manière.
Mmh. D'une certaine manière, c'est comme que un répertoire de toute une série de moments, d'états d'esprit que j'avais traduit en chansons. Et chaque chanson, pour moi, c'est comme qu'un petit cadre d'un moment vécu pour la société guinéenne dans lequel, de laquelle je fais partie. Et c'est à partir de là que je me suis dit, bon, peut-être le titre convenable pourrait être Souvenir, L'Embrassa, dans notre créole.
Déjà, je veux aller partir dans plusieurs directions, mais parlons de quelques questions ou faits historiques dans ce parcours. Parce que Guinée-Bissau, c'est soit en 74, l'indépendance de à partir de...
La proclamation de l'indépendance était le 24 septembre 73, et la guerre avait duré encore un an à peu près, jusqu'à la tombe du régime de Salazar au Portugal le 25 avril. Le 10 octobre, les Portugais se sont définitivement et formellement retirés avec la reconnaissance de notre État, qui était déjà membre des Nations Unies, pareillement comme le Portugal d'ailleurs. Et alors, disons que la sortie définitive du système, du régime colonial s'est vérifiée en octobre de 1974.
Je comprends que vous avez en fait votre service militaire pour le Portugal également.
À l'époque, j'étais un enfant quand j'étais envoyé au Portugal. C'était la mode à l'époque, certaines familles, d'envoyer les enfants à la métropole à étudier. Et la guerre s'est déclenchée et tout le monde était forcé à aller servir. Et moi, je m'ai trouvé au Portugal, sans autre possibilité ni sortie. J'étais obligé d'aller servir à l'armée portugaise dans la marine. Et
Et est-ce que c'est de là, donc, c'est ce que... Je ne savais pas que c'était la marine, mais cette expérience Os Nauticus ou...
Oui, le Nauticus, c'est une deuxième expérience dans le domaine musical. Okay. En fait, j'avais commencé dans une école, j'étais dans une école agricole. J'avais décidé de faire une formation dans l'agronomie, à l'agriculture. Et pendant cette période, à l'école, moi et quelques amis m'ont invité à faire des tests pour voir si je pourrais participer à un groupe qui se formait à l'époque. Bon, j'ai fait les tests, ils ont aimé, et à partir de là, je suis devenu chanteur, artiste, c'est pas moi là. Et entre-temps, je suis recruté pour l'armée, j'arrive à l'armée, il y a encore une autre proposition de participer à la formation des Nauticus. Et là, je me suis dit, ok, je participerai à ça. Et comme je savais que c'est l'orchestre, oh, le commandant là, aimait mon travail, j'aurais un moyen de me défendre, d'être utilisé dans la guerre. J'avais fait ma guerre à la guerre en chantant, et l'orchestre à un moment donné me prenait comme incontournable, disons comme ça entre guillemets, et je suis resté comme musicien jusqu'à la fin de mon temps de service. Et c'est là que, à partir de là, j'ai dit non, je dois beaucoup à la musique, parce que elle m'avait permis de me défendre d'un fait que peut-être allait me mettre en situation de trauma définitif dans ma vie. Mais là, Dieu est grand, comme on dit chez nous.
Vous avez participé très tôt, en fait, dans les enregistrements d'une musique créole, indigène, à partir de cette expérience. Pour vous, les mémoires ou les racines de votre musique, vous les allez musicalement, vous allez chercher l'inspiration
dans notre folklore essentiellement. Le point de départ, c'est le folklore, mais l'ouverture au monde, elle est là. Nous sommes dans un courant d'échange permanent avec tout le monde. Et comme j'ai vécu en plusieurs circonstances et dans plusieurs espaces culturels, j'ai eu la chance d'une certaine polyphonie de mes conceptions musicales. Et à partir de notre folklore, j'avais essayé de traduire mes sentiments et mon mixage culturel, au métissage culturel, mieux dit. Et c'est ça qui m'avait amené à garder les racines identitaires de nos chansons folkloriques, mais en le faisant de se développer dans un espace universel, disons comme ça.
Je vais, si on peut prendre juste un moment, on va se tourner sur l'album et on reviendra par la suite pour continuer. Mm-hmm. En studio, Ernesto Dabo, l'album lancé l'année dernière, L'Embrassa. La chanson, on va écouter, c'est, je pense, c'est la première, Juicy.
Mm-hmm. Juicy.
Oui. Et ça s'appelle, ça veut dire?
Juicy, c'est le nom d'un grand compositeur, interprète, nous avons créé la première formation musicale moderne du pays qui avait déclenché tout ce processus qui est arrivé à aujourd'hui. Parce que pendant la période coloniale, là, nous n'avions pas de groupe qui chantait nos folklores. C'était dans le cadre de la politique d'assimilation, d'aliénation du régime colonial, ne pas permettre la diffusion de la culture locale. Et là, nous avons rompu cette barrière en créant une première orchestre, en défendant notre langue nationale, et à partir de là, bon. Et ce monsieur avait eu un rôle particulier dans ce processus. C'était comme un frère à moi jusqu'à présent. Il est décédé dans un accident d'aviation en 1977 avec 27 ans à peine. Et dans ses 27 ans de vie, il a laissé une œuvre colossale. Et en hommage à tout ce qu'il représente pour nous, là, c'est pour cela que je l'ai dédié à cette chanson.
Sur les ondes du peuple, un premier titre de notre invité, Ernesto Dabo. On CKUT 90.3 FM, live in studio, Ernesto Dabo plays Sunday the 13th of July at Nuit d'Afrique at Club Balatou.
que se manda punta se dia de polo nan que lunju se se barigas marado diante na luta que verdade na cal boca que está ai se uma pantem paciência em contar se meninos de criação na quirce se marianas reparti na praça se tempo de computera que fica manga deles oh, sei que manda ponta se manga deles oh, sei que manda ponta. Amanhã o tempo arrosou, eu sei. Babia da manhã o tempo arrosou, eu sei. E música de canta, e música de jamo, e música de canta.
Vraiment, vraiment très, très beau. Et quand je disais une musique lyrique, c'est cette douceur, cette joie. C'est pas toutes les chansons qui sont comme ça, mais il y a quand même un élément là-dedans. Sur les ondes du peuple 90,3 MF, invité en studio sur les ondes du peuple Funky Revolutions, Ernesto Dabo, en spectacle dimanche le 13 juillet au Balatou. Votre, juste la courte, brève histoire, et on n'a pas touché aux différents groupes, mais j'ai dit en commençant notre entretien que vous étiez une des grandes figures de Guinée-Bissau. Et c'est vrai, en outre, le premier long album sorti, vous avez fait partie de cette création. Notre émission, ça fait des années que je le fais, et à fur et à mesure que le temps passe, je découvre de plus en plus les musiques africaines, et j'essaie de partager leurs racines, l'effet colonial, l'effet de la métropole, l'instrumentation importée. Et chaque zone, chaque pays, quoi qu'elle partage, on peut dire, des étapes similaires, assez particulières. En outre, l'élément traditionnel ou folklorique sur lequel on construit ces musiques modernes. Et avant d'aller là-dessus, le fait que vous avez été avec d'autres jeunes, encore sous la jogue coloniale, a créé et annoncé une musique créole de nous. À l'égard de cette force coloniale. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Est-ce que c'était une partie d'une lutte? Est-ce que ça faisait une expression naturelle? Ou c'était vraiment une coïncidence historique que vous, jeune homme, vous êtes trouvé à cette étape-là? Comment?
Non, je crois que c'était une conséquence de la lutte de libération qui se déroulait chez nous. Malheureusement, le régime colonial portugais, c'était le seul qui avait refusé carrément de négocier les indépendances. Et là, il avait forcé mon pays, l'Angola et le Mozambique particulièrement, à prendre des armes pour acquérir son indépendance. Ça nous avait coûté un prix qu'on ne peut pas même... enfin, fier. Bon, et par conséquence de cette lutte armée-là, c'est déclenché tout un processus de récupération de notre identité. Et dans ce processus de récupération de notre identité, plusieurs arts, particulièrement la musique, la danse, le théâtre, la peinture, la poésie, tous ces arts-là ont contribué chacun à sa façon pour élever le niveau de conscience des gens et présenter les raisons, les causes et motiver les gens pour la cause, la liberté, de la libération de notre pays. Bon, nous étions groupe de jeunes de Saint-Urbain là, qui avaient eu le privilège d'aller à l'école, qui avaient eu le privilège de connaître un peu ce qui se passait ailleurs dans le monde et de voyager très tôt. Naturellement, nous avons acquis des autres motivations supplémentaires pour faire quelque chose dans le sens de promouvoir la lutte en utilisant comme recours, ce qu'on avait comme talent pour la musique et pour les autres arts. Bon, c'est ça qui nous avait d'abord motivé à jouer notre folklore, à chanter en créole, de façon à récupérer cet élément identitaire, d'ailleurs fondamental, et nous avons créé des chansons avec des poètes de notre génération. Nous avons créé des chansons qui ont encadré le sentiment national à l'époque. Et ça, vraiment, c'était quelque chose qui... Moi, je vous le jure, toujours que je me rappelle de ça, là, j'ai des frissons. Parce que le premier jour que ces chansons étaient entendues à la radio, c'était extraordinairement émouvant. Toute une ville, tout un pays, toute une nation qui d'un coup s'est redécouvert. Hein. Il a redécouvert son identité par la via les chansons qu'on avait écrites à l'époque. Et le lendemain de cette annonce à la radio, de la présentation de nos premières chansons à la radio, toute la ville de Bissau se demandait « Mais qui sont? Où ils sont? Pourquoi? Hey, mais c'est beau !» Vous voyez, bon, cette fierté-là commençait à monter. Quelques mois après, dans tous les quartiers de Bissau, on voyait que des jeunes apprennent la guitare, s'organiser avec des petits instruments. Et un an après, on avait déjà des dizaines de formations musicales. Et en conséquence, la première orchestre qu'on avait créée s'appelait Kobiana Jazz. Cobiana Jazz s'était fondée pour moi, Zé Carlos, Ali Oubari, Rui Davis, Guto, Duku Kasurnand, Mamadou Bassa, Maké, sont des noms des amis avec qui nous avons joué pour la première fois en public. Et après ça, moi j'ai retourné parce que j'ai vécu au Portugal. Je retourne au Portugal après une vacance que j'ai fait au pays, qu'on avait profité pour créer le groupe. Et au Portugal, je reprends aussi l'idée de créer un autre groupe pour faire la même chose qu'on venait de créer à Bissau. Et nous avons créé un groupe qui s'appelait Djorson. Et avec ce groupe Djorson, nous avons commencé à promouvoir la musique moderne bissau-guinéenne à l'extérieur du pays. Et moi, j'avais déjà, disons, comme que un réseau plus ou moins bon là, de rapport dans le milieu. Et j'ai présenté une proposition à un ami à moi, qui lui a dit, écoute, on fait de la musique bissau-guinéenne. Il dit, quoi? Je dis, oui. Musique bissau-guinéenne. Il dit, laisse-moi écouter ça. Je l'ai fait écouter, il s'est solidarisé avec le projet, il nous a ouvert la porte, et comme ça, nous avons enregistré le premier single de l'histoire de la Guinée-Bissau. La discographie, l'histoire de la discographie bissau-guinéenne commence avec ce premier single. Et dans ce premier single, il y a une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Mbaboulama. Mbaboulama, l'histoire est simple. Moi, je suis originaire de cette ville. Mbaboulama, c'est une ville qui était capitale de la colonie à l'époque et qui est tombée dans une situation de dégradation presque totale en période de la guerre coloniale. Et moi, une fois, j'étais là-bas pendant cette période. J'ai vu le tas de dépression, de dégâts, de ce que la guerre fait de mal sur toute une société. Et je suis rentré chez moi, je pouvais plus me tenir. Et je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose. Et là, j'ai écrit cette chanson. Je l'ai donné un rythme assez joyeux là. Mais pour cacher le message, dans le message, il y avait 3 ou 4 mots qui disaient, écoutez, malgré tout là, nous arriverons un jour à nous libérer de ce fardeau-là. Il faut nous maintenir unis et nous battre pour changer la situation. Plus ou moins, avec des... ça c'est mes mots maintenant, mais le sens c'est ça. Et je crois bien qu'on a pu contourner le système de vigilance coloniale, parce qu'ils pensaient, oh voilà, ils sont contents, ils dansent dans le rythme, là. Mais le message passait. Et c'est comme ça qu'on a réussi à introduire ces chansons et avoir un premier disque. Et ce disque avait aussi marqué une étape dans l'évolution de notre musique.
Ce que vous décrivez, donc, c'est que la musique peut être ou contribuer à l'acte révolutionnaire, l'acte de résistance. Et est-ce que, avec dans cette lutte de la libération, est-ce que la musique permettait donc de passer ce message populaire, culturel, d'une manière que la politique, que le discours politique, que les tracts ne pouvaient pas? Est-ce que pour vous, c'était quand vous aviez caché ces mots-là, est-ce que c'était très conscient l'acte? Est-ce que c'était un acte de résistance ou un acte de communication, de libération? Comment vous avez vécu ce moment de composition pour vous?
Oui, nous étions, comme je l'avais dit, des jeunes qui avaient eu un privilège de passer par une formation qui nous permettait déjà plus ou moins entendre ce qui se passait à l'époque. Et pour cela, nous nous sommes engagés dans les structures clandestines du parti qui faisaient la lutte. Et disons que nous étions d'abord des militants. Et en tant que militants, on utilisait tous nos moyens, toutes nos capacités pour la militance dans laquelle on était engagé. Et là, c'est comme ça que moi, j'ai commencé à faire la musique en Europe. Et naturellement, c'était la musique soul, rock et des autres musiques brésiliennes. C'est ça que je faisais. Quand je me suis rendu compte que ce n'est pas exactement ça ce que je devrais faire, en priorité, je dis non. Finalement, j'ai ma musique au pays, il faut quand même faire quelque chose. Et c'est ça qui avait motivé notre changement. Et l'implication militante, là, je reprends encore la justification, C'est elle qui nous avait amené à structurer nos mélodies et à insérer dans ces mélodies des messages. Des messages, mais malgré tout, on chantait beaucoup de chansons d'amour. Et on chantait parfois d'autres occasions seulement pour amuser les gens. Mais il y a de ma génération, les chansons sont essentiellement inspirées dans le mouvement de libération qui se déroulait à l'époque. Et après l'indépendance, nous avons gardé la même ligne parce que l'indépendance et la décolonisation sont des concepts qui ne sont pas exactement la même chose. Et la corruption est arrivée, toute une série de maladies sociaux sont arrivées, toute une série de problèmes aussi sont là au pays. Et quand c'est comme ça, on reprend les armes. C'est ça que, plus ou moins, on continue à voir dans les générations conséquentes qui sont arrivées à l'activité après nous. Ils chantent l'amour, mais ils sont toujours attentifs. Toujours qu'il y a quelque situation, quelque chose qui ne va pas bien, et ils essaient de dénoncer, de suggérer des solutions, mais il n'y en a pas le même objectif qu'avant. Maintenant, c'est de corriger. Après, avant, c'était de désenraciner les affaires et donner des autres racines aux choses.
On va écouter un autre morceau, mais sur ce thème de déracinement d'autrui, mm-hmm. ou du pouvoir d'ailleurs, mm-hmm. Je lis en ce moment un livre d'un Marocain qui parle précisément de l'époque de la libération contre le protectorat français au Maroc. Et parmi les voix multiples que ce récit, ce texte évoque ou met sur ses pages, je vois dans les jeunes voix des personnages du livre des gens qui savent qu'ils militent, qu'ils savent qu'ils vont à l'encontre des pouvoirs coloniaux, mais qui, à l'intérieur, ne savent pas encore et sont en train de former une identité propre. Et donc, les discussions entre les divers militants, c'est quoi un nationaliste, c'est quoi un vrai Marocain, c'est quoi la vision qu'on... Est-ce que c'est en déracinant, on s'est trouvé une identité, ou en embrassant et faisant les premières chansons créoles, on savait où on allait? Ou est-ce que c'était un processus de découverte par cet acte aussi de déracinement? Pour vous, est-ce que c'était clair où on allait? Ou est-ce que c'était on se lance dans une aventure qui nous a mené malheureusement où on est arrivé?
Si vous voulez, c'est une excellente question. Et Amilcar Cabral, que peut-être vous aurez déjà entendu parler, avait analysé cette question. Le problème identitaire ne se pose pas pour les masses. Parce qu'eux, ils sont là, ils gardent leur esprit, leur tradition, ils évoluent selon ces principes et les règles à eux de l'histoire. Mais ce qui se pose, c'est que les couches sociales plus élevées, là, où la petite bourgeoisie locale, coloniale et tout ça, c'est elle qui a un problème identitaire. Parce qu'elle est un produit d'un conflit, conflit et coexistence culturelle entre ses origines sociaux, historiques, culturelles et son rapport avec le régime dominant, colonial, étranger. L'école était installée par le régime colonial, alors l'école c'est une fabrique, c'est une production, c'est une chaîne de production de façon de penser, vision du monde et autres. Bon, le régime colonial avait quand même utilisé l'école pour minimalement former une certaine couche sociale dans les colonies, mais en même temps en installant un software là dans lequel il arrive parfois même à ne pas avoir honte d'être soi-même. Vous voyez, bon, c'est cette couche sociale là qui a toujours un problème identitaire que il dépasse ou pas en fonction de son engagement et sa lutte personnelle collective pour dépasser les traumes coloniaux. Vous voyez, c'est dans ce sens que nous étions, nous les jeunes, qui étaient passés par cette centre production de mentalité de l'école coloniale. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on lisait beaucoup. Nos familles avaient des livres à la maison, on lisait, on écoutait la musique, on voyageait, et au fur et à mesure, on constatait les différences. Et on constatait que, finalement, là, ce que l'humanité a de commun, ça c'est inquestionnable, de commun toute l'humanité a que la différence. Alors, ça c'est en valeur. Comment? Il faut la cultiver chacun à partir de son espace. Et aller à la rencontre de l'autre pour garder ce qui nous est commun. Et pas se combattre pour ce qui nous est commun. Si on se combat pour ça, on va détruire toute une ligne de communication commune. Et bon, retournons à la question que vous m'avez posée personnellement. Là, la conscience, elle se prend graduellement, à fur et à mesure qu'on évolue. Il y a des moments que parfois on se trompe. On commet des erreurs, mais il y a des autres où on a la chance d'avoir quelqu'un ou quelque chose qui nous fait reprendre la route, prendre le bon chemin. Et c'est un processus. C'est à mon avis de réponse à ce genre de questions, c'est jamais oui, non.
Mais la réponse que vous nous donnez nous mène plus profondément et ailleurs. Je j'espère pouvoir vous continuer une discussion un jour sur ce que vous venez de soulever. En studio, Ernesto Dabo. Il est en scène au Nuit d'Afrique le 13 juillet. On va continuer avec une prochaine chanson. Ça, c'est la chanson Justiça.
Justiça, ouais. Justiça.
Sur l'album tiré L'Embrassa qui est sorti l'année dernière, 2013.
C'est le troisième, hein?
C'est votre le troisième chanson.
Dans l'album.
Oui. Ah, c'est, okay. Oui. Sur les ondes du peuple, notre invité, Ernesto Dabo.
justiça, 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 justiça. Justiça, 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 justiça.
Sakura, Salma, Sakura, Salma.
Justiça, 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 justiça.
Sakura, Salma, Sakura, Salma.
Justiça, 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 justiça.
Sakura, Salma, Sakura, Salma.
Justiça, justiça.
Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie.
Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir.
Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin.
Un message du gouvernement du Québec.
CKUT 90.3 FM in Montreal. Our guest in studio is Ernesto Dabo from Guinea-Bissau, and he'll be playing Sunday the 13th of July as part of the 28th edition of Nuit d'Afrique. Real pleasure to have one of the important figures and birthers of a whole national kind of music, Creole music of Guinée-Bissau. Je voulais vraiment vous remercier d'être venu ici et un jour, j'espère, en fait, un des pays de l'Afrique que je n'ai pas visité encore avec mes auditeurs sur cette émission, c'est Guinée-Bissau. Et peut-être on pourrait revenir un jour si ça vous tente.
Avec plaisir.
Je ferai plus de recherches et j'amènerai les musiques nécessaires si je peux les trouver.
Avec plaisir.
Vous êtes en spectacle sur scène et vous avez plusieurs collaborateurs sur scène et plusieurs instrumentations différentes.
Oui.
Sur l'album, vous parlez, il y a une chanson
Sabourin.
On avait parlé de ça, les racines folkloriques, l'expérience métropole, la modernisation, l'instrumentation, la création d'une musique reflétant une réalité de libération. La chanson Sabourin, décrivez-la nous. Quand vous parlez, je vais essayer de la trouver, mais peut-être cette rencontre, vous m'indiquez que c'est une chanson qui l'exprime bien ou le démontre bien, cette expérience.
C'est ça. Nous avons un genre musical chez nous qu'on appelle Tina. Et Tina est jouée avec une calmasse sur l'eau et particulièrement pour nos dames, nos mamans, nos tatis, dans le village, en sens urbain, partout. Disons que c'est le genre national le plus important qu'on a dans notre folklore urbain. Et quand j'ai décidé d'introduire cette pièce dans mon CD, l'intention c'était de faire voir que c'est possible de garder les racines de toute une culture, mais en l'ouvrant en même temps au monde. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait introduire le violoncelle dans cette mélodie, parce que mon problème, c'est que À mon avis, les instruments sont là pour être utilisés pour tout le monde. C'est préconçu de considérer que le violoncelle, c'est pas un instrument africain, le tam-tam, c'est pas un instrument européen. Ça, c'est des faux questions, parce que les instruments sont là. C'est comme le cellulaire, comme les automobiles, et comme les bateaux et les avions. Ils sont là pour être utilisés pour qui est capable de l'utiliser. Et nous, en tant que créateurs musicaux, là, nous croyons que tous les instruments devront être à notre disposition. C'est à nous d'être capables ou d'imaginer quoi faire avec. Et bon, nous avons essayé de faire parler le violoncelle à notre façon, faire parler notre créole.
avec ou sans accent?
Oh non, l'accent c'est secondaire. Et là, nous avons eu la chance de trouver un extraordinaire musicien, c'est M. Claude Lamotte, à qui je rends hommage, que nous avons fait un travail extraordinaire dans cette chanson. Et à part ça, j'ai découvert que finalement, là, comme on dit ici, il y a une communion de point de vue instrumental et sonore entre un instrument qu'il y a ici au Québec et un autre instrument qu'on a chez nous avec lequel on joue le tina. Le tina, on le joue avec des morceaux de bois taillés qui on l'appelle palmas. Bon, c'est qui remplace le claque de main, là. Si jamais on n'a pas les instruments, on joue avec les mains, tout simplement. Et ça donne une sonorité pareille à ce qui sort de la cuillère québécoise. Et quand j'ai entendu la cuillère québécoise, je me suis dit, mais hey, il y a quelque chose à nous ici. Bon, disons dans le sens que j'ai découvert que la sonorité de la cuillère et la structure de ce son-là étaient pareilles. Et là, je me suis dit, non, voilà quelque chose qu'il faudrait que j'amène chez nous. Et après mon séjour, je suis rentré au pays, j'ai amené deux cuillères. Et j'ai parlé de ça et j'ai démontré ça à mes amis. Et tout le monde m'a dit, mais quand même. Hein. Bon, ça, c'est un argument que j'ai pour justifier que finalement, la créativité ne dépend pas des instruments. C'est les instruments qui sont utilisés pour la création. Et alors, tout dépend de qui est le créateur, qu'est-ce qu'il veut faire au départ. S'ils veulent faire quelque chose, qu'ils trouvent qu'avec une sitar indienne, là, ils peuvent faire sa musique, pourquoi pas? L'inverse, s'ils veulent faire une musique ici, ils veulent utiliser une flûte Peul, pourquoi pas? Et ça se voit maintenant petit à petit. Il y a déjà des groupes qui fonctionnent. Il y a un trio jazz à Paris, là, que c'est Ancora, piano et calebasse.
Oui.
Vous voyez? Pourquoi pas? C'est ça le problème. Oh, mais on a un problème. Pas le problème, disons. Mais ça, c'est ça ma vision de la question.
Vous êtes. Merci d'être venu, Ernesto Dabo. Vous êtes. Un vrai funky revolutionary, un révolutionnaire. Merci d'avoir partagé un peu votre création et votre parcours créatif. Merci d'être venu. Vous êtes en spectacle le 13 juillet. C'est un dimanche, Club Balatou, 20h30. Mm-hmm. Également, votre album L'Embrassa, très disponible sur iTunes et également sur... Vous avez un site?
Un site, ernestdabo.com. Mais le CD est déjà en vente maintenant, à partir de la fin du mois ici, dans les maisons de vente de disques, les EDP qui est en train de promouvoir la distribution. Merci à moi de vous remercier beaucoup, beaucoup. J'espère
effectivement à la prochaine.
Merci beaucoup.
Merci. Ernesto Dabo, 13th of July. Check him out at Club Balatou as of 8:30, part of the 28th edition of the Nuit d'Afrique Festival. A true funky revolutionary. We'll be back right after this last song.
Manu,
Lyrical guests today on Funky Revolutions. I was Khalid. Our last guest was Ernesto Dabo on stage at the Balatu on the 13th of July. His album is called L'Embresa. Peace be unto you and yours, and as usual, free your mind, our collective ass was follow. This was Funky Revolutions. That's right, it does follow, you know. It does.
We know the battle ahead will be long, but always remember that no matter what obstacles stand in our way, nothing can stand in the way of the power of millions of voices calling for change.
Somebody says there is no greater force in this whole world than an idea whose time has arrived. An idea whose time has arrived. And that idea, ladies and gentlemen, is black consciousness, which is going to free the black man from the shackles of white imperialism, white slavery, white oppression. Power!
Black consciousness movement was the best thing that ever happened to us, because it took away the brainwashing of that apartheid was instilling in our minds through the education, the so-called Bantu education that they were giving us in schools.
The main aim, actually, in developing black consciousness as an ideology was to try to make people be proud of themselves, proud of their color. For quite a number of years, the main aim of blacks was to try to become whites.
mobilization.
No, which is physically impossible and psychologically frustrating.
Has been said about the threat that black consciousness movements pose, but surely they also have cultural affiliations and activities?
Oh yes, they've got drama association, and the drama associations get together, they have all sorts of plays, rather activistic plays, and they have all sorts of poetry readings and so on, but I can give you an example.
Freedom is not free. I want them to know why Officer Darren Wilson didn't go to jail for killing our brother Michael Brown. I want them to know why. I want them to know why George Zimmerman didn't go to jail for killing Trayvon. I want them to know why. And the reason is because America is at war with the black man. You do not go to jail for carrying out your responsibilities to your state. That's why no police will ever go to jail for killing a black man, because war has been declared on the black man. It's the black man who simply won't accept it.
Look, the art of war is the meaning behind the message. You don't need a gun or sword if you treat your mind as the weapon. Our colors is hitting, its secrets teach us hiding their lessons. History books was full of people with white complexions. Reach the height you're destined, nigga, we define the essence. Took my rap money, made a team for my investments, get my family out the hood. The only reason why I'm stressing, small city, but niggas carry heat the size of precious. Look, I speak on shit you other rap niggas nervous to say. The purchase I pay more than most niggas earn at my age. My purpose was made, from my birth was determined for grade. The land of the free, unless you black or you served in a cage. For my niggas behind the wall trying to learn up a trade. You get free and they make it hard just to earn up a wage. You either return to the cage or get murdered in graves. That's the power how racist judges could turn us to slaves.
We celebrate 150 years of freedom. Did y'all know that? Since 2015, 150 years. What do we got, black folks? Where's our airplanes? What do we got? Where's our supermarkets? What do we got? Where's our schools? What do we got? Where's our banks? What do we got? 150 years of freedom. Whatever.
Yo. Compared to the wise, could win a war with just my ears and my eyes. The greatest victories come to those who prepare when it's time. Inspired by moments, seeing mommy with tears in her eyes. Smoking cigarettes while she playing out Mary J. Blige. Racist cops shoot at our kings, they even got a noose if you free. One shot could turn your blood to a pool when you bleed. Poison our mind, even poison the food that we eat. Choke us out in broad day till we can't move or can't breathe. I'm the female Mansa Musa of the niggas. Generational wealth, what I plan to do for my niggas. I'm the palm reader, look how I hand the future to niggas. With music to my ear, so I hand the flute to my niggas. All praises due to the highest as God protect me. I give you food for thought, but my diet was Dr. Sebi. Kings killing kings don't get to be led, let it be violent. What's worse than being physically dead is mentally dying.
America has the highest incarceration rate on the planet. And most men, black men, in jail, are in jail for non-violent drug-related offenses. In other words, he was selling crack and heroin on the street because he couldn't find a decent job through which he could earn enough to take care of his family. So who is responsible when the black male is miseducated, economically castrated, comes out of jail, cannot find any opportunity to set his life aright, can't get welfare, can't get health care, can't get public housing, can't get student loans? So he breaks the law again and goes back. We look at him. How about the system? Freedom is not free.
This is the Mothership Cassette Archives, episode 35. In addition to the music of our featured guest, Ernesto Dabo, from 2014, we also heard music from Spazza. Their album Uprise celebrates the sounds and expression of the 1976 Soweto uprisings in South Africa. And then work from Apollo Brown, a song called Freedom. We'll be back with part two of this episode, moving towards the Indian Ocean and the celebrated album from the island of Réunion, the group Ziskakan and Bateau Fou.
Pop Montreal International Music Festival is celebrating its 20th anniversary from September 22nd to 26th, 2021. 5 days of music, films, art, crafts, panels, and more, featuring Cakes Tequila, Backwash, The Besnard Lakes, The Deers, Handsome Eli, and more. Tickets on sale now at popmontreal.com.
Sam's excited to see his favorite band play live. He's thought about it all week. He bought his ticket. He wore his band t-shirt. He went to the concert venue. He wasn't allowed inside the concert venue. He put away his band t-shirt. He threw away his ticket. And he thought about it all week.
Don't wait until it hits you. Get vaccinated. Beginning in September, you'll need a vaccination passport to enter certain public spaces. A message from the Gouvernement du Québec.
Revolution.
The funk.
Revolution.
The funk.
CKUT 90.3 FM in Montreal.